Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 77 démissions en 24 heures. Des médecins mettent la pression à Rennes et à Paris. Ils cherchent à obtenir plus de moyens pour l'hôpital public. La ministre Agnès Buzyn leur répond dans ce journal.
Et dans votre journal également, c'est le premier contentieux du genre contre une entreprise française. Des associations et des collectivités attaquent Total pour inaction climatique.
Dans cette édition, nous reviendrons également sur l'évacuation d'un camp de migrants porte d'Aubervilliers ce matin à Paris. Et nous irons aussi à Amiens où les anciens de Goodyear sont de nouveau devant les prud'hommes.
Les Israéliens saluent un plan historique, les Palestiniens le rejettent avec force. Donald Trump dévoilera tout à l'heure son plan de paix pour le Proche-Orient. Nous prendrons la température à Jérusalem dans ce journal.
Il est des conflits sur la planète dont on parle beaucoup, d'autres qu'on a tendance à oublier. L'ONG CARE publie son baromètre annuel sur les 10 conflits les moins médiatiques. Le directeur général de CARE France, Philippe Lévesque, est l'invité de ce journal. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et nous ferons un état des lieux de la pensée à gauche entre lumière et anti-lumière avec notre invitée, la philosophe Stéphanie Rosa.
Ils étaient près de 50 hier au CHU de Rennes. Ils sont aujourd'hui 27 à Paris. 27 chefs de service de l'hôpital Robert Debré démissionnent de leurs fonctions administratives. Bonjour Céline Autain.
Bonjour.
Ce coup de force a un objectif. Céline, réclamer plus de moyens pour l'hôpital public.
Oui, et pour ça, commencer par le désorganiser. Montrer que sans personnel, un hôpital ne peut pas fonctionner. Tout part d'une menace qui plane depuis le 14 janvier dernier. Depuis l'ultimatum de plus d'un millier de médecins et chefs de service adressés à la ministre de la Santé, débloquer des fonds pour l'hôpital public ou bien nous arrêterons de collaborer avec l'administration. Une délégation est reçue par Agnès Buzyn. Le rendez-vous est une impasse. Deux semaines plus tard, c'est donc chose faite. Les premières lettres de démission collective signées individuellement viennent d'être envoyées. Ce qui est visé avec la fin des tâches administratives, ce sont les recettes, les chiffres d'activité, le nombre de lits occupés que relèvent quotidiennement les chefs de service sans moyens supplémentaires. Un temps redonné aux patients promet les démissionnaires, mais qui va pénaliser l'hôpital entreprise, comme ils l'appellent. Une désorganisation inédite chez les médecins qui passe outre leurs scrupules. Oui, l'hôpital va aller encore plus mal pour un temps, mais il ne tient qu'à la ministre de proposer une réforme en profondeur de son financement, d'embaucher plus de personnel pour assurer l'administration et le soin, d'ouvrir plus de lits pour faire face à l'activité. Avec ces démissions, certains avouent avoir épuisé toutes les idées pour protester sans pénaliser les patients. Une nouvelle journée d'action Hôpital Mort est prévue le 14 février prochain. Toutes les professions hospitalières devraient y participer.
Céline Autain. Et voilà ce que répond Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, à cette initiative du collectif Interhôpitaux.
Ce collectif interhôpitaux, effectivement, je les ai rencontrés il y a une dizaine de jours. J'ai eu l'occasion de partager avec eux le plan d'action. Tous n'avaient pas perçu, notamment, ce que pouvait représenter la reprise de la dette, c'est-à-dire 10 milliards d'euros sur 3 ans. Cela dégage une marge de manœuvre de l'ordre de 800 millions à 1 milliard d'euros par an de trésorerie pour les hôpitaux. C'est énorme. Moi, je pense que tant que ces mesures très concrètes ne sont pas visibles dans le quotidien des soignants, ils resteront dans un niveau d'insatisfaction que l'on connaît, parce qu'ils veulent que ça change tout de suite. Le malaise est réel, il est flagrant quand on visite certains services. Il y a certains services qui sont en grande difficulté. Ça n'est pas homogène. Il est clair que certains hôpitaux ont l'air beaucoup plus impactés que d'autres par les difficultés, et cela apparaît quand on regarde les signataires du collectif. Voilà, moi je ne suis pas du tout dans une démarche de sanction, absolument pas. Nous sommes face à des soignants en souffrance. Mon objectif, c'est de leur montrer que nous sommes à leur côté, que nous déployons un plan d'urgence très sérieux qui va leur apporter des bénéfices au quotidien. L'enjeu n'est pas aujourd'hui de mettre ses services et ses personnels dans une plus grande difficulté.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, extrait choisi par Tara Schlegel. Elle, c'est Total qu'elles ont dans le viseur. Une vingtaine d'associations et de collectivités saisissent la justice. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Elles assignent le géant pétrolier français pour inaction climatique.
Oui, ce premier contentieux climatique contre une multinationale du pétrole en France arrive après toute une série de démarches, de demandes, de rencontres même avec le PDG de Total. C'est en octobre 2018 que le collectif de 14 collectivités et plusieurs associations interpelle Total. Elle reproche à la multinationale, qui de part d'ailleurs ses activités dans le monde est responsable elle seule de l'équivalent de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la France, elle reproche donc à Total l'absence de toute référence au réchauffement climatique dans son premier plan de vigilance. Car il faut savoir que depuis mars 2017, suite à l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance, Total a l'obligation légale de prendre des mesures propres à prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement résultant de ses activités pétrolières. Un second plan de vigilance, adopté en mars 2019, n'y change rien, ni les échanges avec la direction de Total. Les engagements climatiques de Total restent plus que faibles. Les ambitions climatiques de la multinationale française sont clairement en inadéquation avec la trajectoire fixée par l'accord de Paris sur le climat qui est de limiter l'augmentation de la température de la planète à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Les activités de Total conduisent plutôt à une augmentation de cette température à 3 voire 4 degrés. 14 collectivités donc dont Bayonne, Nanterre, La Possession, La Réunion, Grenoble, la région aussi Centre-Val de Loire, etc. qui subissent déjà des inondations, des sécheresses, des incendies à répétition, assignent donc Total en justice pour manquement à son devoir de vigilance. Elle demande que l'État ordonne à Total de prendre les mesures nécessaires pour réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, que Total s'aligne tout simplement avec l'objectif de l'accord de Paris.
Les précisions de Véronique Reberotte. Le retour devant les prud'hommes d'Amiens. Plus de 800 anciens salariés de Goodyear se sont retrouvés ce matin, 6 ans après la fermeture de l'usine de pneus, pour une nouvelle audience, une audience de départage. Bonjour Guillaume Gaven.
Bonjour.
En direct d'Amiens, où les ex-Goodyear contestent toujours le motif économique de leur licenciement. Et Guillaume, la nouvelle audience s'est ouverte ce matin devant un juge professionnel, cette fois juge qui n'est là finalement aujourd'hui que pour entendre les deux parties.
Oui, ce n'est pas aujourd'hui que le jugement sera rendu, hein. Il sera mis en délibéré une fois que tout le monde se sera exprimé. C'est le même principe que la dernière fois, sauf qu'à l'époque, les 4 juges non professionnels, 2 représentants des salariés, 2 de patronat, n'étaient pas parvenus en octobre 2018 à se mettre d'accord. Aujourd'hui, il y a en plus ce juge qu'on appelle départiteur, un magistrat professionnel qui devra, lui, trancher. Chacune des deux parties a 4 heures pour plaider. L'avocat des anciens salariés de Goodyear parle depuis maintenant un peu plus de 3 heures et toute sa démonstration consiste à prouver que le fabricant de pneus a dans le même temps fait des profits et licencié. Documents financiers à l'appui, Maître Fyodor Rylov cite le résultat net du groupe en 2014, 2,5 milliards de dollars, 2,5 milliards de profits après impôts, insiste-t-il, alors que la même année, le numéro 1 mondial du pneu Michelin ne réalisait, lui, qu'un petit milliard d'euros de profits. La bataille de chiffres va se poursuivre cet après-midi avec la plaidoirie tout aussi fleuve de l'avocat de Goodyear, dont on sait déjà qu'il va insister sur l'endettement record du groupe au moment de la fermeture de l'usine, 5,3 milliards de dollars. La fermeture de l'usine d'Amiens l'a réduit cet endettement de 75 millions. Quoi qu'il en soit, le jugement sera donc mis en délibéré et susceptible d'appel, ce qui veut dire que l'une ou l'autre partie peut demander et obtenir un nouveau procès. Bref, le feuilleton, 6 ans après, est encore loin d'être terminé.
Guillaume Gaven avec Olivia Branger à Amiens pour France Culture. Les policiers ont débarqué vers 6h du matin au milieu des tentes et des baraquements de fortune installés au bord du périphérique parisien. 2 mois après celui de la porte de la Chapelle, le campement de migrants de la porte d'Aubervilliers a été évacué tout à l'heure sous les yeux de Benjamin Elie.
Une évacuation dans le calme, des centaines de personnes couvertures sur le dos qui patientent dans le froid devant ces bus qui les emmènent vers un abri temporaire en attendant que leur dossier soit examiné. Mujib a 19 ans, il est afghan, il dit avoir passé près de 6 mois dans ce campement. C'était dur, c'est sale, voilà ce qu'il dit.
Souris,
des rats.
Oui.
Des bagarres, des violences, beaucoup de personnes qui se droguent, qui se battent entre elles. Il est soulagé de partir. Pour sa vie, pour son futur.
Nos constats sont vraiment affligeants.
Le docteur Patrick Bouffard, bénévole pour Médecins du Monde, il intervenait dans ce campement.
Nous vivons depuis fin 2014 une situation absurde. Fait de rotations comme ça, de mises à l'abri qui vont être éphémères, de retour à la rue par une absence totale de volonté politique d'aller vers des solutions durables d'accueil et de prise en charge.
Il s'agit de la 60e évacuation de ce genre à Paris depuis 2015. Le préfet de police Didier Lallement s'y est engagé après ce dernier démantèlement. La zone sera surveillée, sécurisée pour qu'il n'y ait plus de campement porte d'Aubervilliers.
Et plus de 1400 personnes vivaient dans ce campement. Le prélèvement à la source, un an plus tard, où en est-on? Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, fait un premier bilan et présente les nouveautés de l'année 2020. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Et parmi ces nouveautés, Anne-Laure, nous n'aurons plus de déclaration de revenus à remplir.
Oui, c'est en effet ce que promet Bercy pour le printemps prochain, le moment traditionnel où on remplit sa déclaration de revenus. Le fisc va envoyer pour information la déclaration pré-remplie en version numérique ou en version papier, selon le choix fait dernier par le contribuable. Et s'il n'y a pas de changement de situation, d'erreur ou d'éléments à compléter, eh bien le contribuable n'aura plus rien à faire, explique le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.
S'il y a une erreur, il peut toujours en avoir une. D'abord parce que c'est une déclaration, donc votre vie change peut-être. Et donc vous devez renvoyer ce papier. Et s'il n'y a pas d'erreur, ce qui est le cas de plus de 80% des feuilles que nous envoyons, eh bien il suffit de ne rien faire, qui ne dit mot consent. Et donc l'impôt à la source s'appliquera automatiquement. C'est une grande simplification qui est permise notamment grâce à l'impôt à la source.
Et selon les estimations de Bercy, 12 millions de ménages devraient ne pas avoir à renvoyer leur déclaration cette année. L'autre chantier auquel veut s'attaquer l'administration fiscale, et ça fait longtemps qu'elle en parle, eh bien c'est de rendre contemporains les crédits d'impôt, c'est-à-dire de les verser en même temps que les dépenses qui permettent de bénéficier de ces niches fiscales. Depuis le passage au prélèvement à la source, il y a un système d'acompte pour les crédits d'impôt jugés récurrents comme l'emploi à domicile ou encore les dons aux associations, 60% versés en janvier, le solde à l'été. Eh bien le ministre des Comptes publics annonce ce matin qu'il y aura une expérimentation en 2021 pour les dons avec les associations qui le souhaitent, dans un contexte, rappelons-le, où la générosité marque le pas. L'objectif, c'est que cette réforme s'applique en 2022, afin de ne pas avoir à ce moment-là à attendre un an pour obtenir le crédit d'impôt, quand on verse donc un don à une association. Une annonce qui a surpris les principaux acteurs du secteur. France Générosité, que je viens de contacter, n'avait pas été informée en amont.
Anne-Laure Jumet, Gérald Darmanin, qui confirme par ailleurs sa candidature en tête de liste pour les municipales dans sa ville de Tourcoing. Combien seront-ils à suivre Cédric Villani? La députée Paola Forteza ouvre le bal et quitte La République En Marche, le parti comme le groupe à l'Assemblée. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
C'est le premier impact concret de la lutte fratricide pour la mairie de Paris entre Benjamin Griveaux, candidat officiel du parti présidentiel, et le mathématicien dissident.
À maintenant 48 jours du premier tour de cette élection municipale, le fait qu'une députée LROM choisisse le dissident Cédric Villani au candidat officiel Benjamin Griveaux illustre le malaise qui ronge la Macronie. Car même si l'on savait depuis le mois de novembre que Paola Forteza serait tête de liste Villani dans le 19e arrondissement de Paris, eh bien il y a aujourd'hui les mots de la députée des Français de l'étranger pour expliquer son départ. C'était ce matin sur l'antenne de RMC.
Sur le fond, on est plusieurs à avoir attendu pendant longtemps un tournant à gauche, un tournant écologique du mandat qui n'arrive pas. Nous avons eu beaucoup de promesses pendant la campagne qui étaient celles de combattre par exemple les appareils politiques, celles de renouveler la classe politique, la classe dirigeante, renouveler les pratiques. Et aujourd'hui, on reconstruit un parti de toutes parts, un parti qui est verrouillé.
Et cette petite musique de gauche n'est pas nouvelle au sein de La République En Marche. Des voix se sont régulièrement élevées dans l'hémicycle et dans les couloirs pour demander une inflexion à gauche lors du débat asile et immigration, comme sur le projet de loi bioéthique, sur les questions environnementales et ces dernières semaines autour de la réforme des retraites. Et cela fait un moment que cette aile gauche de la Macronie fait entendre sa différence. Jean-Yves Le Drian le reconnaissait même après les élections européennes en déclarant que cette sensibilité n'avait pas été assez prise en compte. Alors, depuis plusieurs mois, les responsables de l'aile gauche de la majorité réfléchissent à constituer un groupe. La députée Paola Forteza a donné une indication supplémentaire ce matin en expliquant travailler à la constitution d'un groupe écologique et progressiste pour la deuxième partie du quinquennat. L'exclusion demain soir du député de l'Essonne, Cédric Villani, actera un peu plus cette fracture au sein d'un mouvement regroupant des sensibilités de droite et de gauche, illustrant ainsi toute la difficulté à parler d'une seule voix lorsque l'on revendique le « en même temps ».
Pierre Neveu. Benjamin Netanyahou retire sa demande d'immunité au Parlement. Inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance, le Premier ministre israélien avait formulé cette demande à la Knesset. Il a fait machine arrière ce matin. Israël, où l'armée renforce sa présence dans la vallée du Jourdain, à quelques heures de la présentation par Donald Trump du plan de paix pour le Proche-Orient. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Le correspondant de France Culture à Jérusalem. Frédéric, c'est l'aboutissement d'un long processus lancé par le président américain, processus dont on ne sait finalement pas vraiment s'il peut aboutir.
Oui, d'abord, on ne connaît pas encore le projet en détail. Le Wall Street Journal parle d'un document d'une cinquantaine de pages, largement inspiré des positions israéliennes. Le Jérusalem Post, lui, affirme que Donald Trump va présenter une carte prévoyant l'annexion des colonies juives de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Voilà pourquoi l'armée israélienne, ce matin, a renforcé ses positions dans ce secteur. Si tout cela était réalisé, cela voudrait dire que l'hypothétique État palestinien ne serait pas d'un bloc, mais parsemé de routes et de secteurs israéliens. On appelle ça ici, vous savez, le pelage de léopard. On prend une carte, en jaune, on a un grand territoire majoritairement israélien, et puis des petites taches marrons, c'est-à-dire les petits morceaux de territoire laissés aux Palestiniens. Dans le Jérusalem Post, toujours, le conseiller religieux de Donald Trump, un évangéliste très pro-israélien, affirme que s'il y avait un État palestinien, il serait démilitarisé, sans contrôle de son espace aérien et sans la possibilité de signer des traités internationaux. L'ensemble des partis israéliens, Cisjordanie et à Gaza, dénoncent donc à l'avance ce plan Trump. Et depuis que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, le président Mahmoud Abbas refuse tout contact avec son homologue américain Donald Trump, qu'il a qualifié hier soir de chien et fils de chien. Mais de l'autre côté, Rosalie, les colons juifs de Cisjordanie déclarent qu'ils ne soutiendront pas le dispositif Trump si jamais ce dernier évoque un État palestinien, sans oublier d'autres questions en suspens. Que diront les pays arabes? Et surtout, qui dirigera Israël après les législatives du 2 mars et qui dirigera les États-Unis jusqu'à 2024?
France Culture en direct de Jérusalem avec Frédéric Mettezo. Le bilan est incertain, mais on parle déjà de 10 à 30 morts. Une attaque djihadiste a été menée ce matin au Burkina Faso et c'est arrivé dans le nord du pays. Les Français qui sont à Wuhan vont commencer à rentrer. Wuhan, c'est cette métropole du centre de la Chine où est apparu le nouveau coronavirus il y a un mois. Olivier Poujade, alors que l'épidémie a déjà fait 106 morts, plusieurs pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants.
En dépit de l'appel au calme relayé selon Pékin par le directeur de l'OMS en personne, de nombreux pays ont pris la décision de déclencher un plan d'urgence pour offrir la possibilité à leurs ressortissants de rentrer chez eux. Dès aujourd'hui, le Japon mettra en place des vols charters. Son ministère des Affaires étrangères a évalué à 430 le nombre de citoyens japonais vivant dans la province de Hubei. Les États-Unis enverront eux dans la journée un avion spécial à destination de Wuhan pour évacuer le personnel consulaire. Pour les autres Américains présents dans la ville, le nombre de places sera limité. Le rapatriement vers l'Allemagne s'effectuera, lui, par avion militaire. La Russie, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont de leur côté choisi de s'appuyer sur la logistique des autorités chinoises pour prendre en charge leurs ressortissants. Enfin, le Canada semble s'en tenir au discours a priori tenu en Chine par le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, discours appelant à ne pas céder donc à la panique. Ottawa ne prévoit donc aucune évacuation groupée, les rapatriements se feront au cas par cas.
Olivier Poujade. Madagascar, le Burundi, la Corée du Nord, la Zambie, les conflits actuels dans ces pays font partie de ceux dont on parle le moins. C'est le constat du baromètre annuel de l'ONG CARE. Bonjour Philippe Lévesque.
Bonjour à vous.
Directeur général de CARE France et bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
À mes côtés pour vous poser quelques questions. Philippe Lévesque, si l'on prend votre baromètre, Madagascar est premier dans le classement des conflits les moins médiatiques dans le monde. Que lui vaut cette triste première place?
Alors premier plutôt dernier. Que de classement. Le baromètre que nous faisons depuis maintenant 4 ans suit le travail que vous faites, vous les médias, et la façon dont vous les médias vous rendez compte de crise. Alors pas forcément que des conflits, Madagascar n'est pas en conflit, mais c'est un problème important de disette, d'impact de sécheresse climatique là-bas, ou au contraire de cyclones trop importants et trop récurrents. Et Madagascar, hélas, est le pays qui est le moins suivi par les médias.
Alors justement, on va revenir tout d'abord sur la méthodologie. L'objectif de ce baromètre, c'est de regarder tout ce qui se dit dans plein de langues, français, anglais, allemand, arabe, espagnol, sur un sujet, sur un pays, c'est ça?
Dans 6 langues, à travers le monde et sur les médias en ligne, nous demandons à une société spécialisée d'analyser le traitement que font les médias de certaines crises. Nous leur fournissons la liste des 40 crises qui ont concerné plus de 1 million de personnes l'année dernière. 40 crises, au moins 1 million de personnes. Ils tournent les analyses et ils ressortent les occurrences. Et c'est là où Madagascar n'apparaît que pour un peu plus de 600 occurrences dans l'ensemble des médias mondiaux sur 5 grandes langues.
Alors, pour vous donner un ordre d'esprit, 612 pour Madagascar, 2,5 millions articles sur le PSG. Ça donne quand même une certaine différence.
Oui, alors c'est très bien de suivre le PSG. D'ailleurs, tous les grands clubs de foot français sont dans cet ordre de grandeur, 2 millions, 3 millions d'occurrences. L'Eurovision, c'est plus de 600 000 occurrences pendant le seul mois de mai à l'époque. Là, on parle de Madagascar, 600 occurrences sur un an.
Alors, la conséquence de cet oubli, c'est financier. C'est la première conséquence.
Je pense que la première conséquence, elle est humaine. Elle est dans la souffrance des gens, parce qu'ils ne sont pas suivis ou peu suivis. Si une crise est peu médiatisée, peu suivie, si elle s'inscrit dans la durée d'ailleurs, elle sera de moins en moins suivie, alors il y a moins de fonds, ça c'est très clair. Il y a moins d'argent des donateurs individuels, vous, moi, ceux qui nous écoutent, des États aussi, puisque les leaders politiques s'en désintéressent. Et les souffrances durent plus longtemps et la crise dure plus longtemps.
Alors dans ce baromètre quatrième, vous l'avez dit cette année, 10 pays, on se rend compte que le changement climatique s'invite de plus en plus souvent dans les pays en crise.
Oui, c'est frappant. Au fur et à mesure des années, on voit, quand on recherche les causes, et bien sûr c'est multifactoriel, donc différentes causes, mais l'impact des dérèglements climatiques monte de plus en plus dans les conséquences de ces crises. On a évoqué Madagascar, mais c'est très vrai pour la Zambie, c'est vrai pour le Kenya, c'est même vrai pour la Corée du Nord. On en a de plus en plus de pays, le Burundi, le Sahel, nous voyons les conséquences des dérèglements climatiques, jouant avec d'autres soucis comme guerre, instabilité politique, etc., bien sûr. Mais les dérèglements climatiques sont un facteur aggravant.
Et est-ce que c'est plus difficile de le voir? Parce qu'un conflit armé, il y a une guerre, on en parle. Des problèmes climatiques, c'est plus insidieux, non?
C'est probablement plus insidieux, c'est pour cela que la Zambie ou le Kenya sont dans ce classement, à côté du Burkina Faso. Alors là, au Burkina Faso, on cumule les deux. On cumule une instabilité politique extrêmement forte, un épuisement des ressources naturelles du fait de l'accroissement démographique et l'impact des sécheresses ou des dérèglements climatiques.
On le disait, il y a des pays qui font leur entrée, c'est assez surprenant. La Corée du Nord, par exemple, pourquoi elle arrive?
Elle a longtemps été là, la Corée du Nord. C'est pourquoi elle était sortie l'année dernière, en 2018. Elle était sortie parce qu'à ce moment-là, il y avait d'énormes discussions entre le président américain et le président nord-coréen. Donc, les médias ont traité la disette, les problématiques économiques en Corée du Nord. Et puis, cette année, bon, ils sont sortis de l'agenda.
Qu'est-ce qu'on en fait de ce baromètre? Parce que tous les ans on le regarde et on est impressionné. Ouais. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça fait bouger les lignes?
J'espère que ça fera bouger vos lignes, puisque c'est un regard qui est porté par nous, acteurs humanitaires, sur vous, sur les médias. Et donc mon message, il est vers vous, vers vos conférences de rédaction, vers vos intérêts à vous. Nous vous demandons à vous d'avoir un regard un peu plus large, un peu plus ouvert, un peu plus constant sur ces crises oubliées. Pas autant que sur le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, bien sûr, mais enfin, tout petit peu plus.
Qu'est-ce qui fait qu'un pays est oublié? Il y a des raisons qu'on peut voir ou pas?
Parfois la durée, quand c'est récurrent, et là, on s'habitue. Alors, typiquement sur les dérèglements, l'impact des dérèglements climatiques, c'est formidable de voir la jeunesse de nos pays se mobiliser, c'est formidable de voir les pressions, les procès qui peuvent être faits pour faire bouger les choses dans nos pays. Mais les conséquences, elles sont déjà là. Les conséquences, elles sont déjà là dans les pays les plus pauvres et sur les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes. Parce que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Ce sont les femmes qui sont les plus pauvres. Donc dans les pays les plus pauvres, ce sont elles qui seront en première ligne. Et il faut arriver à faire bouger ces lignes-là. Il faut arriver à parler de plus en plus des conséquences des dérèglements climatiques sur les gens aujourd'hui. Et donc notre message, c'est d'essayer de faire pression pour avoir davantage de fonds, non seulement pour l'adaptation de nos économies ici, bien sûr, dans nos pays riches, mais aussi pour faire face à ce qui impacte déjà les gens.
Ce qui est impressionnant aussi, c'est l'Afrique. 9 des pays cités sont en Afrique. Est-ce que c'est là, dans cette partie du monde, que les problèmes sont les plus importants?
En ce moment, sans doute, et à nouveau, c'est le non-reporting. Donc, des problèmes les plus importants, on va les trouver en termes de masse, on va les trouver bien sûr en Syrie, au Yémen, au Venezuela, des endroits où Caire est présent sur le terrain. En Afrique, en tout cas sur la bande sahélienne, on a la conjonction de l'instabilité politique. Vous évoquiez l'attaque au Burkina Faso, des endroits où on ne peut plus travailler. Et donc, impact de l'instabilité politique et de la pression sur les ressources naturelles. Alors là, il y a une conjonction de facteurs qui font qu'hélas, les pays de la zone sahélienne ou très pauvres comme Madagascar sont touchés.
Merci beaucoup Philippe Lévesque, directeur général de CARE France. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Et merci également à Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale. 1200 foyers sont privés d'électricité dans le Loiret, conséquence du vent qui souffle fort depuis cette nuit et qui va continuer de souffler. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie aussi. Seul le littoral méditerranéen est à peu près épargné par les averses. Cet après-midi, les températures s'échelonnent entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord, de 5 à 15 pour la moitié sud. C'est la fin de cette édition, réalisée avec Nicolas Paumet. Prochain rendez-vous de la rédaction à 18h.